Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis en compagnie de Philippe Deschamps dans les studios Polisson à Paris, spécialisé dans la post-production. Donc Philippe est aussi compositeur, monteur son, ingénieur du son et bien sûr musicien. Bah, bonsoir Philippe.
Bonsoir Philippe.
Est-ce que j'ai bien décrit un petit peu ton curriculum vitae, si je puis dire? Est-ce que j'ai oublié certaines choses peut-être dans le large panel de choses que tu fais?
Non, c'est à peu près tout et ça me prend déjà pas mal de temps. Ce que j'aime bien, c'est quand même pouvoir couvrir un peu finalement tous les moments du son des films. Et j'aime beaucoup les moments collectifs en tournage, les moments de prise de son, proches des acteurs, proches de leur voix que j'apprécie beaucoup. Et puis j'aime bien la partie de création qu'il peut y avoir en post-production. Et la musique, c'est quelque chose que je vis à côté et parfois proche avec la musique de film.
D'accord, donc c'est un métier, on va dire, de précision, parce que on poste synchroniser de la musique sur une scène ou sur différents éléments d'un film, ça ne doit pas être forcément évident. Est-ce que les cahiers des charges, justement, pour faire ce genre de travail est assez précis, assez millimétré?
Y a du spotting, on choisit des endroits où on a envie de musique. Parfois il y a des musiques temporaires qui sont utilisées en attendant la musique originale. Ça peut être un moment, c'est quelque chose de pratique pour les réalisateurs au moment du montage, mais quelque chose qui peut être assez désagréable quand on compose, parce que finalement les sons, les images et les musiques, on les associe très vite. Et à force de regarder des images avec une musique, on s'y habitue. Et c'est très, très dur de venir après.
D'accord, donc je pense qu'il faut être aussi un petit peu musicien. Est-ce que tu l'es ou tu es, disons, autodidacte au niveau de la musique?
Je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai commencé quand j'étais enfant à chanter. Et il y a des gens qui s'arrêtent, des gens qui continuent. Pour moi, la voix, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est proche de la méditation, quelque chose qui fait du bien et qui a à voir avec le souffle. Et donc voilà, au départ, j'ai chanté et j'ai fait des cours pour faire du chant de contre-ténor. Donc j'ai appris la musique baroque, j'ai appris le piano classique. Et puis, à l'adolescence, j'ai tout troqué pour la guitare électrique, pour le clinquant du rock, pour l'aspect social aussi, je pense. C'était plus branché, on va dire, de faire du rock. Et j'avais des nouvelles amours. Enfin, au lieu d'écouter de la musique baroque, j'ai commencé à écouter beaucoup de rock des années 60-70. On va dire que c'est vraiment ma seconde culture. Après la musique baroque. Et donc, musicien aujourd'hui, oui et non. Je ne fais pas de performance, je ne suis pas soliste. Ça n'est pas mon métier de faire des concerts et de jouer dans des orchestres ou des groupes. Je me considère comme quelqu'un dont l'instrument principal aujourd'hui est le studio. Et donc je continue à faire de la basse, de la guitare, je continue à chanter, mais pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que la guitare pour moi c'est un matériau sonore aujourd'hui, la basse reste la basse, c'est toujours, ça c'est un peu l'école baroque, c'est l'appui du chant. Y a les deux voix les plus importantes, c'est vraiment la mélodie et la basse. Et il y a quelque chose qui frise entre les deux, et entre les deux il y a toute l'harmonie et toute l'histoire de la musique, mais j'aime ces extrêmes et j'aime aussi tout ce qui se passe au milieu. Mais comme je disais, aujourd'hui je m'intéresse plutôt aux instruments comme matière sonore, pas pour la performance d'un jeu fabuleux et fantastique que je n'ai pas et qui ne m'intéresse plus. Mais j'aime beaucoup ceux qui savent très bien jouer. Mais moi, je suis plutôt du côté du studio.
Justement, est-ce qu'il y a des musiciens qui t'ont inspiré ou des chanteurs, que ce soit dans le baroque ou on va dire dans le rock'n'roll par rapport justement au parcours musical que tu as suivi? Est-ce que voilà, ce sont des chanteurs ou des musiciens qui t'ont vraiment inspiré pour ce que tu fais actuellement?
Alors pour ce que je fais actuellement, je ne sais pas. Je pense que c'est toujours facile de dire telle personne m'a inspiré, écoutez ce que je fais. Mais en même temps, est-ce que vous voyez la relation? Moi, ce qui m'a vraiment porté, je pense... Bon, d'abord, c'est Alfred Deller, un contre-ténor vraiment fabuleux, avec une voix très aiguë, très belle. Et puis après, ça a été Robert Plant, Led Zeppelin. Et puis, il y a une chanteuse assez expérimentale qui s'appelle Joanne La Barbara. J'ai essayé de reprendre beaucoup de ces chants qui sont comme autant d'exercices extraordinaires mais très périlleux. Et puis je pense que Jeff Buckley a été un moment très important pour moi. Tom York aussi. Voilà.
Et justement, est-ce que ça t'aide donc du coup bien sûr à produire des différentes choses sonores, différents morceaux pour les films, et notamment je sais que tu as produit alors deux morceaux, j'imagine que c'était peut-être pour un film, alors c'est La nuit derrière nous et Ce que peut la nuit. Voilà, c'est un projet pour un film ou pour autre chose?
Bien justement, il s'agit d'un film de Julien Hillemoine qui s'appelle La nuit aux amants, et là pour le coup j'ai été ingénieur du son et monteur son sur ce film. Et pendant très longtemps, tout le monde prétendait qu'il n'y avait pas besoin de musique. J'étais convaincu qu'il fallait quelque chose à deux moments, au début et à la fin, pour rentrer, pour sortir du film. Je trouvais que ça manquait. Et puis, je n'étais pas du tout en train d'essayer de vendre ma musique. J'étais pas forcément inspiré, pas forcément impliqué. J'étais en train de faire le montage son en post-production. J'avais pas vraiment le temps. Et au dernier moment, il y a eu un revirement de situation de la part du réalisateur et du producteur. Et au moment d'aller au mixage, il y a eu une évidence qu'il fallait de la musique. Et du coup, le mixage n'avait pas lieu à Paris. Je suis parti avec ma guitare, mon ordinateur, et tout s'est fait très vite, quoi. Mais si on parle de la musique en soi, c'était vraiment quelques notes de guitare qui ne demandent absolument pas d'être virtuose, mais qui cherchent un temps suspendu avec plein de scintillements, de transformations dans les résonances. Enfin, tout à fait ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire faire une expérience de la durée proche d'une transe, mais au ralenti. C'est un peu étrange comme langage, mais je pense que c'est des mots qui pourraient permettre de continuer à discuter plus tard de la musique ambiante que je fais aujourd'hui.
Bien comprendre. De toute façon, on va en parler, juste un petit peu pour parler justement de ce que tu fais, comme je le disais en début d'interview. Tu as aussi participé à un Crescendo 2023, donc en fait c'est pour la promotion des compositeurs. C'est organisé par la SACEM, que c'est en quelque sorte une consécration de ton travail. Enfin, comment tu as perçu en fait cet événement, voilà, comment tu as pu participer justement à cet événement, à Crescendo 2023.
Il y a une sorte de concours organisé par la Maison du Film et la SACEM, et c'est un dispositif Crescendo qui permet à de jeunes compositeurs et compositrices, jeunes au sens où ils n'ont pas encore été vraiment reconnus dans le métier, mais ils ont une expérience de court métrage et de long métrage, et donc c'est un moment pour les promouvoir et leur apprendre aussi à promouvoir leur travail. Donc c'est une mise en avant d'un parcours déjà existant, et une consécration, je ne sais pas, le mot sera un peu grand, mais un accompagnement, et surtout l'assurance d'avoir un regard extérieur qui valide un peu le professionnalisme des gens sélectionnés.
D'accord, ça ouvre peut-être des portes pour d'autres choses aussi, le fait d'avoir ce concours.
Alors, on l'espère tous. Il y a peut-être des projets qui vont arriver là, mais rien n'est encore fixé. Mais c'est le but de ce dispositif, et j'espère dans quelques mois dire que oui, ça a fonctionné.
On te le souhaite, hein, de tout cœur. Tu as dû aussi, enfin, tu as dû voir passer beaucoup de films, surtout passer entre tes mains par rapport bah, justement à l'habillage sonore. Est-ce qu'il y en a des très connus? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que du coup, tu es un petit peu peut-être l'homme de l'ombre, alors que voilà, tu as pu justement mettre en musique certains films peut-être très connus.
Alors, non. Non. J'ai travaillé sur des documentaires, j'ai travaillé sur deux longs métrages de fiction. Donc tu viens on vient de parler du second, La nuit aux amants. Et le premier, c'était un film qui s'appelle Nesma d'Omeïda Bey, qui se passe après le printemps arabe. C'était un film très sombre qui se passe en Tunisie, donc où on voit que quelque chose, malgré le printemps arabe, est encore pourri dans le pays. Et c'est une sorte de thriller. Et là, je me suis vraiment éclaté sur les nappes de guitare, sur un aspect post-rock. Vraiment, le genre, c'est le post-rock. Donc voilà, il y a au moins 45 minutes de musique. C'est pas un film qui a été beaucoup vu, mais pour moi, ça reste un film et une expérience très importante.
On va parler donc de ton projet Ambiante, donc sous ton vrai nom, Philippe Deschamps. Donc tu as sorti différents morceaux, donc il y a à peu près un morceau par mois. Alors des fois un petit peu plus, il y a un petit peu plus d'écart. Bon après ça c'est pas gênant, un projet d'EP. Donc en fait au total il y aura 6 morceaux. Pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il y en a 5 qui sont sortis. Oui. Isian Planet, Cloud Stream, Movements of Blue et Blue Light Wave. Donc ça c'est le dernier en date qui est sorti.
Le dernier est Inside Blue Light Waves.
D'accord.
Qui est une revisitation de Blue Light Waves.
D'accord. Et donc c'est un petit peu sous la thématique, si je dis pas de bêtises, des nuages, du ciel, ce genre d'éléments. Bah justement, comment est né ce projet? Comment a mûri ce projet? Voilà, quel a été le déclic pour te lancer?
On était en mai 2022. Je revenais du tournage de Madame de Sévigné et j'avais pas fait de piano, pas de guitare, pas de musique électronique pendant 3 mois. Et je suis revenu, je me suis acheté le livre de Jean-Yves Leloup, Ambient Music, et je me suis mis à écouter plein de choses que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Et je me suis dit, il est temps. Il est temps que je m'y essaie. C'est quand même quelque chose qui me passionne depuis plus de 15 ans. Et c'est surtout que j'avais un autre projet. C'est un petit cycle de piano que je voulais enregistrer. Mais comme je n'avais pas joué depuis 3 mois, on pourrait dire que j'avais pas grand-chose dans les doigts. Et du coup, je me suis orienté plutôt vers le studio. En me disant, on ne va pas faire d'air, on ne va pas faire de mélodie. On va chercher quelque chose dans la texture. Et l'idée de tout ce petit cycle, mais qui est né de morceau en morceau, je n'avais pas de plan établi, c'était de s'interdire donc la mélodie, mais d'en avoir des fragments. Pour Blue Light Waves, il y a quelque chose d'assez simple harmoniquement, mais avec quelques variations. Donc pour moi, c'est un rapport érotique à la mélodie. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle ne se donne pas complètement. Elle laisse des traces, mais on ne la saisit jamais. Et pour Asian Planet, c'était vraiment un tout petit motif de 2 notes, et me dire qu'est-ce que je peux faire d'un motif de 2 notes. Si je commence à travailler des durées, des traînées de son, des résonances de guitare, comment construire une dramaturgie sur à peu près 4 minutes, ça a été vraiment le principe de tous les morceaux. Mais ce qu'il y a en commun, c'est le mouvement. C'est-à-dire que j'ai pensé des flux sonores qui se transforment dans le temps et qui ne se répète jamais de la même façon. Donc c'est des choses que j'ai écrit un peu sur Instagram au fur et à mesure comme un journal, À un moment, je dis que je voudrais faire de la musique qui soit comme un cours d'eau, qui est toujours le même, qui est toujours là, présent, mais finalement, les petites vaguelettes, les petits mouvements de courant changent tout le temps. Et c'est la même chose avec les nuages. On dit les nuages, mais quand on se met à les regarder, à les contempler en s'allongeant par terre, on est absorbé par eux. Mais on est absorbé par quoi? Par le mouvement, mais aussi la transformation. Donc je pense que ce qui m'intéresse avec ce petit cycle, c'est c'est la transformation, le mouvement, le flux, l'impression que rien ne bouge et que pourtant quelque chose se modifie. Ce n'est pas de la musique pour... je ne l'ai pas pensé comme une musique, comme on entend parfois, pour se détendre, pour se relaxer, pour oublier qu'il y a quelque chose qu'on est en train d'écouter et qu'on n'écoute pas. C'est plutôt une musique pour s'immerger. Donc parfois même j'ai pensé aussi, c'était l'idée du titre, Asian Planets, c'était les exoplanètes. Un certain type, les planètes ICN sont un certain type d'exoplanètes qui pourraient contenir la vie parce qu'il y a de l'eau et de l'oxygène. Et du coup, j'avais aussi au début une représentation de ces morceaux comme un bain dans un flux un voyage un peu cosmique. Donc il y avait quelque chose de très proche de l'eau, de l'air, des éléments qu'on connaît et qu'on partage, et puis aussi quelque chose comme être dans un parcours rapide au milieu d'étoiles. Avoir l'impression d'être dans le son, dans un flux, au cœur du flux, et de sentir le mouvement tout autour de soi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un moment de méditation et d'écoute plus qu'un moment de relaxation et de détente.
D'accord, plus de la divagation et peut-être un voyage du coup au travers de ces différentes planètes.
Plus un voyage, ouais. Je crois que j'étais hyper embrouillé là, non ?
Non, pas du tout, non. Assez typiquement ambiante, si je puis dire ce que tu dis, d'entendre mais de ne pas l'écouter, ce genre de choses, ouais, c'est un petit peu ce qui est retranscrit par le biais des musiques ambiantes. Donc ouais, après, est-ce qu'on peut parler de mouvement ? Oui, tu en as plus ou moins parlé. Je ne sais pas après si, déjà les différents morceaux, ça serait un acte 1, puis un acte 2, etc. etc. Je ne sais pas si tu le perçois comme ça ou pas du tout.
Tu veux dire l'architecture du projet
Oui, voilà, de paix. Sur un ensemble, en fait, tu as un endroit, comme tu disais, les nuages bougent, donc ils ne se retrouvent plus forcément au même endroit, même si on les distingue toujours. Voilà, est-ce que c'est justement un voyage, séparé ou scindé, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, en différentes parties, en différents actes
On n'en est pas là parce que vraiment j'ai pensé les morceaux au fur et à mesure et que là je suis bien embêté parce que je suis en train d'essayer de construire l'EP. Donc j'aurais du mal à dire. Mais pour moi il y a quand même deux pôles dont on n'a pas encore vraiment parlé. Enfin, c'est Blue Light Waves et le dernier morceau qui est sorti là, Inside Blue Light Waves. Donc Blue Light Waves c'est le morceau on va dire le plus mélodique, le seul avec une sorte de mélodie. Et Inside Blue Light Waves, c'est un peu son contraire. C'est-à-dire que c'est une expérience par synthèse granulaire de voyage, d'immersion, de la tête de lecture à l'intérieur du spectre de Blue Light Waves. Et du coup, on entend il y a des réminiscences de Blue Light Waves, un peu comme autant de fantômes mélodiques de cet ancien morceau, à l'intérieur de l'expérience de Inside Blue Light Waves. Donc ça serait les deux pôles et entre il y aurait toutes les nuances je ne sais pas encore dans quel ordre de hauteur, de lévitation, d'abstraction c'est-à-dire en partant des éléments pour aller vers quelque chose de qui a plus à voir avec l'espace.
Quand même, ils n'ont pas été sortis dans un ordre précis puisque de ce que
pas
tu viens
tout.
De dire
pas
voilà,
tout,
tu as le début, la fin, mais le milieu reste encore à valider par rapport aux différents morceaux, aux morceaux restants. Je crois que oui, il y a 5 morceaux, 1, 2, 3, 4. Il manque 2 morceaux.
Non, là il en reste un.
Il en reste
un,
d'accord.
Il y en a 5 qui sont sortis, 5 sont sortis et il en reste un que j'ai pas nommé encore, que je dois nommer d'ici une semaine.
que bah, du coup, est-ce que ça va être une sortie EP, on va dire sous forme plutôt numérique, ou ça sera sur un support est-ce que tu as déjà pensé à ça, que ce soit sous forme de cassette, parce que ça revient très à la mode, c'est assez simple à produire, ou des choses un peu plus, je dirais, objets de collection, vinyle, le CD peut-être éventuellement. Est-ce que tu as déjà songé à ça aussi par rapport à cette EP?
Bah, c'est quelque chose auquel je pense, bien sûr, mais là pour l'instant c'est complètement autoproduit et de façon très simple. Donc ma première idée, c'est que déjà les morceaux existent, soient écoutés, soient diffusés et partagés. Mais je pense que la question physique se posera plus tard, quand je serai en train de penser à des formes plus longues, parce que je pense qu'en termes de temps et d'argent et de relations de soutien, de labels ou de fans, comme on dit, il va falloir que je m'élargisse un peu avant de penser à ça.
Ah oui, est-ce que tu as d'autres projets à venir? Bon, c'est vrai que pour l'instant tu es assez focalisé, en tout cas en termes d'ambiance, sur ton EP. Est-ce que tu réfléchis déjà à d'autres projets musicaux, à d'autres EP ou à d'autres choses?
Bah, y a plusieurs projets. C'est-à-dire que j'ai un petit cycle de piano à enregistrer. Donc il s'agit de 10 morceaux. Cette idée est née pendant le confinement. Je me suis rapproché d'artistes dont j'aimais beaucoup le travail. Et donc c'est en cours. L'idée, c'est d'avoir une pochette par single avec des artistes dont j'apprécie vraiment soit le dessin, soit la peinture. Mais ça serait une série en noir et blanc. Avec des morceaux de piano très simples, comme des airs anciens que tout le monde connaît, sauf que bon, bah, c'est moi qui les ai composés. Non, merde, c'est un petit, ouais, c'est quelque chose de simple. Donc il y a ça d'un côté, et puis de l'autre, du côté de l'ambiance, il y a plusieurs choses. J'ai presque fini pour moi, c'est des cycles. Donc, un cycle assez cosmique, mais c'est des choses assez proches de Tangerine Dream ou Klaus Schulze. Donc, c'est beaucoup plus ample que ce que je fais là. Et un autre sur lequel je travaille encore, plus dark. Enfin, des gens parlent de dark ambiante, je suis pas sûr de toujours comprendre, moi, mais disons que c'est des morceaux plus sombres, plus lents, avec du field recording, un sentiment de perte, de dégradation des éléments. Donc je sais pas comment les gens s'accordent pour nommer ça, mais il y a deux artistes qui m'intéressent beaucoup dans ce style. Déjà un artiste majeur qui m'a donné envie de faire de la musique ambiante, c'est William Basinski, avec les Disintegration Loop.
Oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y ait des mélodies qui soient cycliques et qui se décalent. C'est un peu le travail de Basinski aussi, qui faisait ce genre de musique. Oui.
Bah, Ishan Planet, déjà, s'était inspiré de loin par les DLP de Basinski. Et l'autre qui m'intéresse beaucoup, c'est, je le connais encore assez mal, mais s'appelle Lawrence English. Et on va dire que tout ça m'inspire beaucoup pour un petit cycle, on va dire plus sombre, avec des durées plus longues.
Thank you.
est-ce que tu es aussi en projet, alors je ne sais pas, c'est peut-être juste dans un coin de ta tête, de produire tout ça devant un public ou devant, je sais pas, un vernissage ou ce genre d'événement, de produire ta musique, que ce soit l'EP actuel ou d'autres projets à venir. Est-ce que c'est une idée qui t'a traversé l'esprit?
Alors, j'ai expérimenté pour la première fois, moi qui viens de la scène rock et qui savais ce que c'était un concert, là, sur l'ambiance, à part avoir vu un événement écosystème qui était super bien cet été, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Écosystème, c'était peut-être avec Irezumi, Machka.
Oui, c'est ça.
C'était le deuxième alors, peut-être,
oui. Ouais. Et je sais que c'était vraiment super. Mais là, cet été, j'ai expérimenté une première fois avec un concert au Cirque Électrique. D'ici quelques mois, j'ai pas encore la date, je vais retenter l'expérience au vernissage d'une des artistes avec qui j'ai prévu de sortir mes morceaux de piano. Et donc, la première fois... J'ai mélangé des morceaux ambiantes et du field recording et j'ai mixé tout ça en live, mais comme une longue expérience sonore, un peu tripée. Mais je trouve ça, je suis pas encore très à l'aise avec, parce que je trouve que quand ça ressemble à des siestes musicales ou à écosystème, on sait pourquoi on est là, on sait comment l'écouter. Alors qu'au Cirque Électrique, c'était plus étrange. Et dans le vernissage, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Mais je me dis, a priori, c'est des espaces où on aime bien parler. Donc je ne sais pas. J'expérimente, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. J'y pense, j'en ai envie. Mais ça reste quelque chose qui doit être réfléchi et mis à jour, quoi.
Tu parlais justement de field recording. Est-ce que justement tu as des idées bien précises? Ce serait plutôt du field recording plus urbain, plus en rapport avec la nature? Ou est-ce qu'il n'y a pas de règle du jeu? Tu allumes tes machines et puis elles enregistrent des sons, et à partir de ces sons, après tu sélectionnes et puis tu arrives à justement à créer des morceaux. Enfin, comment tu travailles au niveau du field recording?
Alors, avant de nommer ça field recording, moi, c'est mon métier. C'est-à-dire que sur les tournages, je vais un peu loin de l'équipe et des acteurs, ou je reviens le samedi ou le soir, et j'enregistre des ambiances pour qu'on les ait en post-production. Quand je suis en montage son, j'ai aussi besoin parfois d'aller enregistrer des sons. Mais pas, pour le coup, pas des sons de nature, des sons urbains. Et quand je suis en vacances, j'enregistre beaucoup aussi. Mais j'enregistre par plaisir, pour m'accorder aussi un moment d'écoute. C'est vraiment un moment d'audition. Je trouve que on pose un casque et tout d'un coup, ce qui est fixé, ce qui va faire trace, on l'écoute comme on écouterait chaque note survenue dans un morceau. C'est pas du tout la même écoute que la contemplation de l'auditeur qui s'assoit 3 minutes et se met à écouter. Peut-être que pour certains ça marche. Moi, j'aime bien me mettre dans les conditions de l'enregistrement, de la fixation, pour me dire que ça va faire trace et que c'est comme une partition qui est en train de s'inscrire dans l'enregistrement. Donc on peut dire que j'aime tout enregistrer, et c'est une sorte de déformation professionnelle. Mais pour revenir aux morceaux qui sont sortis, dans Ishan Planet, j'ai enregistré chez moi, à Paris, des sons au mois de juin, dans la rue. C'est quelque chose c'est un endroit assez espacé, il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc c'est l'été, on entend des voix d'enfants, des oiseaux, une voiture qui passe, je suis en hauteur, donc voilà, c'est pas trop gênant, on n'entend pas trop de détails. Et en fait, après, j'ai travaillé dans des réverbes, des délais, et puis j'ai sélectionné et j'ai mis ça dans Ishan Planet, qui est quand même un morceau qui se passe très très loin d'ici, mais dans lequel il y a des éléments qui sont en bas de chez moi. Et quand je dis je l'ai pas dit, mais je le pense. J'ai déjà entendu Brian Eno dire ça et ça m'a parlé. Enfin, il parlait de son studio comme d'un instrument, de considérer le studio comme un instrument. C'est-à-dire qu'on peut partir de n'importe quel son enregistré, mais si on le traite avec, on va dire, amour et attention, il est aussi digne qu'une note d'un instrument. La première fois que j'ai entendu parler de field recording, c'est quand j'ai découvert Chris Watson, qui est ingénieur du son à la BBC, qui est parti dans le monde entier enregistrer des sons de glaciers, des sons d'oiseaux en Amazonie. Dernièrement, il a quand même enregistré une centrale, je crois, en Ukraine, pour la série de Tchernobyl. Et c'est à partir de cette matière-là que Goodnadottir a travaillé pour la musique de Tchernobyl. Et pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Qui arrive à composer avec des éléments de nature, quelque chose de l'ordre d'une partition. Donc je ne suis pas trop friand de sons non montés, comme des expériences d'écoute d'oiseaux, de nature, d'eau. Mais quand il y a une construction ou de la transformation, comme un album qu'il a fait avec je sais plus qui, un album qui s'appelle Elle traîne Fantasma, ça c'est sublime. C'est-à-dire c'est que des sons de train et en même temps c'est un voyage hallucinatoire.
Donc là il n'y a pas de traitement. Après toi c'est dans le contraire, justement traitement comme tu disais, de la réverb, du delay. Donc on n'arrive pas forcément à distinguer, effectivement comme tu disais tout à l'heure, que ça a été enregistré en bas de chez toi et qu'on est plutôt amené à voyager vers des exoplanètes. Mm-hmm. Alors bah, justement, où est-ce qu'on peut retrouver justement toutes tes productions, comment se les procurer? Donc elles sont pour l'instant vraiment, comme on disait, en format numérique. Donc quels sont les sites, j'imagine, Bandcamp?
C'est les sites habituels, Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube, et bientôt avec l'EP sur Bandcamp. Ça rejoindra les autres projets qui sont déjà et qui, eux, ne sont pas encore sur Spotify. C'est assez récent.
D'accord, tu es aussi sur les réseaux sociaux, j'imagine. Alors, je ne sais pas si tu es très actif, que ce soit Insta ou Facebook, si quand même. Enfin, je trouve personnellement.
J'essaie d'être régulier.
Oui, voilà, il y a toujours des infos, les sorties, en tout cas, qui sont annoncées.
Comme je disais, en fait, j'utilise Instagram pour écrire un peu une sorte de journal sur la création de ces morceaux. C'est-à-dire, ça me permet aussi de les annoncer dans quelques semaines, mais ça met à jour aussi des réflexions qui peuvent être intéressantes ou pas pour ceux qui les lisent, mais qui finalement, pour moi, me permettent de fixer un certain nombre de réflexions qui ont à voir avec les morceaux que je suis en train de produire.
Bien sûr, puis justement, capter l'attention des différents de l'auditoire, quoi, pour qu'ils puissent vraiment découvrir ton projet, ton travail musical, mais aussi aux plateformes, aux émissions, de pouvoir aussi te diffuser tes morceaux et du coup, voilà, te faire connaître, une espèce de promotion, ce qui est complètement normal. Justement, dans les artistes que tu as peut-être affectionnés ou qui ont vraiment un attrait très particulier, est-ce qu'il y a justement des artistes que je dirais pas que tu mettrais à part ou sur un piédestal, mais qui t'a vraiment interloqué ou pareil inspiré comme d'autres artistes?
Je pense que l'expérience d'écoute et de l'immersion dans la durée, c'est des choses que j'ai découvertes avec le courant minimalisme américain. Je pense que la première expérience a été un concert de Terry Riley qui s'appelle INSI, où il y a des petits modules, c'est des motifs qui sont joués par des parties de l'orchestre. Et chacun peut décider quand est-ce qu'il passe au motif numéro 2, numéro 3. Et du coup, ça peut durer une demi-heure ou une heure et demie. Et tous ces motifs en do majeur sont censés pouvoir aller ensemble, être joués ensemble. Donc, on a cette expérience d'entendre toujours la même chose. Et pourtant, des choses s'ajoutent, oui, ou se modifient. Et c'est des expériences que j'ai fait avec Steve Reich aussi, avec son processus de dégradation. Non, son... je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un processus de déphasage où deux instruments jouent la même chose et il y en a un qui va se décaler dans le temps et jusqu'à ce que ça, à la fin, ça va faire comme un canon. Donc c'est des expériences vraiment hyper importantes que j'ai pu faire assez tôt. Et puis un jour, j'ai enfin découvert à Beaubourg la Dream House de Lamonté Young, qui est... Enfin, j'en avais vraiment fantasmé pendant des années. Et là, j'ai pu l'expérimenter. Donc il s'agit d'une pièce énorme avec une lumière, je pense, dans les tons roses. Donc déjà, juste le lieu est hallucinant. Et dedans, il y a des sinusoïdes qui sont envoyés. Et quand on marche, on se retrouve dans des nœuds et des trous de sinusoïdes. Ce qui veut dire que quand on se déplace, à un moment, deux sinusoïdes s'additionnent, le son est plus fort. Et à certains endroits, il y a un creux et il n'y a plus de son. Alors c'est, en théorie, c'est ça qui se passe. Mais en vrai, ça veut dire que les sons qui sont dans cette pièce sont immuables et que par contre, le mouvement qu'on fait dans la pièce permettent d'entendre quelque chose d'aussi riche qu'une introduction de raga quand on entend les, je sais plus si ça s'appelle, les tempura ou enfin des bourdons. Donc c'est proche des bourdons. Et je trouve ça fascinant d'avoir rapproché l'architecture et l'expérience musicale. Et voilà, c'est vraiment un artiste que j'adore.
Thank you.
Ambient Memory sur Radio Graphite.
L'émission se termine. Retrouvez Philippe Deschamps sur Instagram et Facebook. Ses productions disponibles sur Bandcamp. Toutes les infos également sur les réseaux sociaux d'Ambient Memory. Vous avez pu écouter et apprécier lors de l'interview les morceaux suivants. Watusi avec Harmonia. Paul Baudouin avec Varuma. Philippe Deschamps avec deux de ses productions, Blue Light Wave, suivi de Inside Blue Light Wave. Lawrence English avec Watching It Inflowed. Et pour terminer, Le Code avec Chore Partie 2. Le podcast disponible dès demain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.
Ambient Memory.